Oui, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors ce soir, dans le dossier du jour, on va retourner en classe puisqu'on va parler de l'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social. C'est un bouquin qui est publié au Seuil et on a les deux sociologues qui ont écrit ce bouquin en plateau, c'est Wilfried Ligné et Julie Pagis. Mais d'ici là, on va retourner un peu en classe, tranquillement, coolement. Allez, zouf, la nostalgique du coup.
J'étais sage comme un orage, ni virtuel, ni imbécile. Je sais bien, ce n'est plus de mon âge. Comme tu vois, j'ai l'instinct fragile à penser à tout ça. J'ai une larme qui coule, c'est l'instant qui veut ça. Nostalgique du cool. Automate traumatisé, je me détraque, trop hantisé. Je me lève à l'eau glaciale, je déteste ce confort social. On grandit bien trop vite sur cette planète plastique où la vie semble pratique. Aujourd'hui, je saisis ma chance.
Tu as retrouvé ton enfance.
Aujourd'hui, je saisis ma chance.
Tu as retrouvé ton enfance.
Je m'enivre à la limonade.
Des oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel et ce soir on parle enfant.
Exactement, et c'était la nostalgie du cool de M pour annoncer le dossier du jour. Donc on a en plateau les deux sociologues Wilfried Ligné et Julie Pagis qui viennent de publier L'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social. Il se trouve que Julie, on t'avait déjà reçu sur ce même plateau à l'occasion de la sortie de ton livre Mai 68, un pavé dans leur histoire. Et puis tu as aussi co-animé avec Lisa Mandel un blog dessiné, je ne sais pas comment dire, une espèce de blog bande dessinée, qui est un blog bande dessinée du monde, les présidentielles, donc sur les enfants regardant les dernières présidentielles. Et puis Wilfried, toi, je crois que tu as travaillé plus sur les enfants surdoués et les affaires familiales, c'est ça?
Oui, exactement. Oui. J'ai travaillé sur les enfants surdoués pour ma thèse. Et j'ai écrit un livre assez en fait, critique sur des questions de médicalisation de l'éducation pour aller vite. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec le collectif 11 pour une enquête assez excitante, très collective, sur les affaires familiales avec un travail sur justement comment les séparations rejouent les rapports de genre, de classe, ce genre de choses.
Et puisqu'on parle de genre, de classe, il en sera question dans votre étude. Mais là, peut-être, justement, pourquoi avez-vous eu envie de faire un travail sur l'enfance?
Ah bah je suis censé répondre parce que j'ai l'impression que ma collègue me dit que c'est à moi de le faire. L'enfance, bah, en fait, déjà, il faut dire que c'est pas évident en fait pour les sociologues de travailler sur l'enfance parce que c'est un objet, comme on dit souvent quand on en parle avec nos étudiants dans un séminaire qu'on anime avec Julie, qui appartient pas en fait aux sciences sociales. C'est-à-dire qu'en gros, quand on veut parler d'enfance, on se dit souvent. Si on veut faire une émission par exemple de radio sur l'enfance, peut-être pas ici à Fréquence Paris Pluriel, mais on va se dire, bah tiens, on va inviter un psy ou
un pédopsie,
un pédiatre, un chercheur en sciences cognitives. Donc ça montre bien, enfin c'est un exemple hein, parmi d'autres, mais que ça montre bien qu'en fait cet objet-là ne nous appartient pas, et en même temps on ne sait pas pour quelle raison en fait les sciences sociales pourraient pas en parler, notamment pour parler en fait des choses qui nous ont intéressés dans ce livre, à savoir le fait que l'enfance n'est pas un âge immunisé en fait des rapports de domination en tout genre, et même en fait qu'en réalité ces rapports de domination sont pas des choses que vivent les enfants de façon un peu extérieure à eux et à leur personnalité, mais ils sont constitutifs en fait de leur expérience et du coup de leur manière d'apprendre en fait d'apprendre à vivre avec les autres, quoi. C'est-à-dire que c'est le vivre, c'est pas juste l'apprentissage d'un vivre ensemble, mais c'est l'apprentissage à la fois de rapports en fait de domination, donc notamment des hiérarchies, on s'est beaucoup intéressé à ça. Et puis également, en fait, hein, de l'apprentissage ben, d'une position à occuper dans cette hiérarchie, de la position qu'on y occupe, en fonction de là où on est né et de qui sont ses parents, notamment.
Ouais, du coup, l'enfance, effectivement, pour s'attaquer un peu à la grande question de comment se forme ce que Bourdieu appelle l'habitus, hein, donc à la sociogénèse de l'habitus. Et donc, comme beaucoup de choses se jouent, effectivement... Dans ce quotidien de l'enfance et dans tout ce qui se transmet par des pratiques pédagogiques plus ou moins explicites. Et du coup, voilà, s'attaquer à cet âge-là, qui effectivement a été un peu le précaré de la psycho, bah, c'était effectivement un enjeu important, un terrain largement laissé en friche pour la sociologie, pour poser des questions et comprendre en fait ce qui nous structure des fois très profondément à l'âge adulte et de manière largement inconsciente et qui se construit dans ces âges sur lesquels on a travaillé à l'école primaire.
Juste peut-être pour, même si on va y revenir, le concept d'habitus en quelques mots pour les auditeurs et les auditrices qui ne seraient pas des sociologues émérites.
C'est pour moi en fait.
C'est encore
décidément. C'est... Non, non, le concept d'habitus, hein, c'est simplement l'idée que... On aurait des tendances en fait profondes qu'on apprend en fait plus on cherche des choses, voilà, plus on cherche les forces les plus profondes qui nous agissent en fait dans notre quotidien, plus il faut remonter en fait dans les années, il faut remonter à la petite enfance. Et l'idée d'habitus, c'est l'idée de dire qu'au fond les manières qu'on a d'agir dans différents domaines de la vie sociale, eh bien en fait ont un air de famille en fait, pour aller vite. C'est-à-dire que, par exemple, alors c'est Bourdieu qui montrait ça sur les pratiques culturelles, par exemple, au fond, il a révélé d'une certaine manière en fait, la logique de l'habitus en disant, quelque part, la manière, les préférences qu'on a en matière de cinéma ne sont pas sans rapport avec les préférences qu'on a en matière de logement, ne sont pas sans rapport avec les préférences qu'on a en matière politique, ne sont pas sans rapport plus proche du goût pour le cinéma, avec les préférences qu'on peut avoir pour les boissons, par exemple, pour la musique. Bon, c'est des choses qu'on expérimente assez souvent quand, finalement, on a un copain qui nous dit « moi, je suis très Radiohead, par exemple, en musique, ou je sais pas, La Rue qu'est à nous », et on se dit « tiens, c'est pas le même monde, petit 1 », donc on fixe un peu l'habitus, puis après, s'il nous demande ce qu'on... Là où il habite, bon, on a plus de chances d'imaginer que, je ne sais pas s'il aime bien Radiohead, il habite dans l'est de Paris plutôt que dans l'ouest de Paris, parce qu'on fait au fond, on fait fonctionner ce concept d'habitus, c'est-à-dire ce concept d'air de famille dans les pratiques en fait, qu'on peut avoir. Et tout ça pour dire que cette récurrence dans les pratiques, elle a deux propriétés importantes, c'est qu'en fait, elle a un caractère relativement inconscient, c'est-à-dire qu'on le fait de manière très assurée, mais sans savoir pourquoi on le fait. Même si on parle de goûts, de choses dont on sait vraiment qu'on les aime et qu'on les aime pas, au contraire, ça fonctionne aussi beaucoup par des goûts. Ça, c'est la première propriété. Et la deuxième propriété, je l'ai déjà dite, mais c'est que c'est des choses qui elles sont inconscientes parce qu'elles sont structurées très tôt. Et c'est pour ça que quand on travaille sur l'enfance, eh bien, en fait, on essaie de trouver ce qu'on appelle, nous, la sociogenèse, c'est-à-dire en fait, l'origine sociale, on pourrait dire, l'histoire, de faire l'histoire, en fait, de cette manière... d'acquérir en fait des habitudes, au fond, pour dire ça comme ça aussi, des habitudes systématiques en fait dans le rapport qu'on a au monde social.
Et comment avez-vous fait pour travailler sur l'enfance? Vous avez fait des enquêtes, vous êtes retourné sur les bancs de l'école, vous avez fait de l'observation, vous êtes devenu instit.
Alors non, on n'est pas devenu un STIT, mais on est rentré dans des écoles primaires. On a travaillé pour, donc à l'origine de ce livre, il y a une enquête qui a duré 2 ans.
Quand est-ce que vous l'avez fait déjà?
De 2010, sur l'année 2010-2011 et 2011-2012, on est allé dans 2 écoles primaires d'un quartier mixte, comme on dit, de l'Est parisien, on va dire. Et dans ces 2 écoles, on a ciblé 2 classes, une classe de CP et une classe de CM1 dans chaque école, qu'on a suivies et qui sont du coup devenues des CE1 et des CM2 l'année d'après, pour avoir un peu tous les âges. Et avec, donc il y a 110 enfants qu'on connaissait comme ça individuellement, parce qu'on y allait quand même de manière assez... on y allait 2 fois par semaine tout au long de ces 2 années. Et en gros, on a fait différentes méthodologies. On a fait des petits exercices par tâche. Quand on leur a fait classer les métiers, là, on les prenait par demi-classe. Donc toujours en l'absence de l'instituteur ou de l'institutrice. Ça, c'est important justement pour que la parole enfantine puisse être moins sous contrainte. Donc des fois, on les avait par demi-classe dans des séances un peu expérimentales. Ce qu'on a fait aussi la première année, c'est qu'on a fait des entretiens avec des enfants. Là, en les prenant par 2, à la fois parce que déjà, nous, on était 2. Donc déjà, ça redoublait ce rapport de domination adulte-enfant. En plus, on était 2. Et du coup, ça, le 2, être 2, et ça leur permettait de pouvoir se reposer sur l'autre. Avoir moins peur, et surtout, ils pouvaient choisir leur binôme.
C'était par groupe d'affinité, donc.
Voilà, en gros, c'était très important. Et puis, des fois, on devait insister auprès des instituteurs qui ont cette tendance à dire « Ah ben, on va prendre un garçon et une fille », alors qu'eux ne feront jamais ça. On leur a dit « Non, non, il faut qu'ils prennent un copain ou une copine, un proche, justement pour se sentir libre. » Donc déjà de dire ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas évident quand on est face à quelqu'un qui n'est pas un proche. Et aussi parce que l'idée... c'est de, par moments, s'effacer quelque part et de pouvoir les observer dans un contexte relationnel et pouvoir, des fois, ils se mettent à parler entre eux, à se poser des questions. Et à ce moment-là, on observe des choses que quasiment ils pourraient se dire dans d'autres situations plus naturelles, entre guillemets, de leur vie quotidienne. Donc, on a fait des entretiens avec par binôme d'enfants la première année. La première année, ça portait sur... En gros, la deuxième année, c'était l'année de la présidentielle. Donc la deuxième année, c'était plus, on a fait des entretiens plus politiques. La première année, on n'a pas du tout parlé de politique. On a abordé, en gros, principalement la question des amitiés et des inimitiés, qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. La question de leur vision, leur perception des métiers, des professions, comment ils les voient, celle de leurs parents, comment est-ce qu'ils les classent, etc. Et aussi de manière plus générale, pour avoir une idée, puis pour montrer la variété des enfances, hein, la différenciation sociale de l'enfance, on leur a fait parler de... où est-ce qu'ils habitaient, avec qui, est-ce qu'ils avaient une chambre ou non, avec qui ils la partageaient, et comment se passait très concrètement une journée depuis la fin de l'école jusqu'au coucher.
Et est-ce que vous avez, fait une enquête sur les parents et sur leur origine sociale? Est-ce que vous avez fait des comparatifs entre le discours des enfants et la réalité?
Alors en fait, c'est intéressant que tu poses cette question-là, parce que ça montre aussi les limites concrètes d'une enquête. C'est qu'en fait, au départ, en fait, on a inclus dans notre protocole, évidemment, le fait de remonter vers les parents. On était de toute façon partie des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en sciences sociales actuellement. Le peu de sociologie ou sciences sociales de l'enfance qui existe insiste beaucoup sur la prise en compte du point de vue enfantin. Bon, ce qui pose un certain nombre de problèmes que je vais laisser de côté ici. Mais du coup, ça, on l'avait quand même repris. Et nous, par contre, on voulait bien ancrer ça, non pas en fait, dans la personnalité, l'individualité de l'enfant, pour ne pas faire justement comme font ces sciences sociales que je viens de citer, on voulait remonter vers les parents. Donc on a fait des questionnaires auprès des parents. Le problème, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné, on a eu très peu de réponses. Et puis que deux, on s'est rendu compte, on en parle dans l'introduction du livre, on s'est rendu compte assez rapidement qu'au fond, il y avait beaucoup de choses en sociologie qui avaient été écrites, en sociologie de l'éducation, en sociologie de la famille, en sociologie politique, en sociologie de la culture, qui de fait, concernant les adultes, concernent de fait les familles, les parents, qui sont des adultes. Et du coup, en gros, nous donner suffisamment d'informations, pas forcément sur ces parents-là, mais sur des parents du même type que ceux qu'on connaissait, que ceux auxquels on avait affaire. Et du coup, en gros, on a assumé le fait qu'on aurait des informations relativement indirectes. Ça, c'est la première réponse. Et puis, il y a une seconde réponse qui est importante, c'est lié à ce que vient de dire Julie. C'est qu'au fond, on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'informations indirectes, entre guillemets, sur les familles, enfin indirect, pas si indirect que ça en réalité, puisque c'était les enfants qui nous les livraient, et qu'à la limite, faire des entretiens avec les parents nous en aurait peut-être moins appris sur pas mal de domaines que des entretiens avec les enfants. Alors, je développe un tout petit peu là-dessus, parce que ça, c'est assez marrant en plus. C'est, ça veut dire que le côté, la vérité sort de la bouche des enfants, quoi. C'est-à-dire, au fond, chez des enfants donc, âgés de 6 à 11, 12 ans, on a quand même une facilité à raconter comment ça se passe à la maison. Des fois, alors, y compris par méconnaissance en fait, des règles de légitimité culturelle, de dire effectivement ce qu'on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on regarde la télévision ou pas à table, est-ce qu'on a ou pas une chambre à soi, est-ce qu'on dort dans, à plusieurs dans le même lit dans certaines situations. Bon, c'est des choses que ne diraient peut-être pas, n'annonceraient peut-être pas les parents, sauf si le sociologue est là pour voir effectivement par exemple, les conditions de logement. Et qui en fait que les enfants en fait nous ont dit assez facilement. Donc, pour le dire autrement, les enfants ont fonctionné vraiment pour nous comme des espèces de petits ethnographes qu'on a vraiment exploité, hein, faut bien le dire. Ils ont livré des infos en fait assez importantes sur leur famille. Je ne sais pas à quel point les parents se rendaient compte d'ailleurs qu'ils peuvent nous raconter ces choses comme ça. Bon, après, tout était anonymisé dans notre travail, donc je pense que ce n'est pas non plus une difficulté énorme par rapport, enfin, d'un point de vue déontologique. Mais c'est vrai que du coup, on a eu beaucoup d'informations sur les familles de cette manière-là et ça a été assez utile. Alors, ne serait-ce que pour donner un exemple très concret, qui n'est pourtant pas de la description de la vie de famille quotidienne, c'est sur justement cette question de description de ce que font les parents. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est que nous, on traite cette question de la manière de parler le métier des parents comme étant en tant que tel un objet, c'est-à-dire est-ce qu'on a les mots pour décrire les métiers de ses parents. Mais au-delà de ces questions de manière de décrire, de capacité à décrire, de facilité à décrire, il y a quand même aussi une information relativement brute, en tout cas prise de manière relativement brute sur, le métier des parents qui nous a permis par exemple concrètement de situer socialement les enfants dans une classe sociale, comme étant plus ou moins en classe moyenne, classe populaire, en classe supérieure, parce qu'on savait la plupart du temps, y compris, il faut le dire, avec des enfants de CE1 ou de CP, en fait, ce que faisaient les parents, parce qu'ils voilà, ils sont quand même capables très souvent de dire il travaille, il fait le ménage chez les gens, elle fait le ménage chez les gens plutôt d'ailleurs, ou il travaille dans un bureau, il a des responsabilités, ce genre de choses.
Et alors, ce qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est que vous faites un peu un pas de côté et vous allez au-delà en fait, de toutes les idées de stéréotypes qu'on a sur l'enfance avec le côté un peu mignon souvent des études sur l'enfance.
Oui, bah, ça c'était un des enjeux effectivement de ce travail, c'était de rompre avec une vision enchantée de l'enfance, avec la vision d'un monde protégé,
un peu hors sol.
Voilà, coupé de la réalité, l'idée de protéger les enfants de toutes ces choses-là, la politique, mais les conflits, la sexualité, enfin toutes ces choses-là d'adultes. Et donc oui, on a construit, et tout à l'heure, Wilfried a parlé un peu de la sociologie de l'enfance, qui a contribué aussi quand même à construire cette idée d'une enfance, en plus aussi une enfance unifiée, parce que du coup avec une idée d'une culture enfantine, comme s'il y avait une culture enfantine, qui serait celle de la cour de récréation, des comptines et des jeux enfantins, voilà ce côté un peu le monde merveilleux des enfants. Du coup, là, on est un peu les sociologues chagrins sur cette question, où voilà, l'idée c'était de dire... déjà, on peut utiliser des méthodologies d'enquête comme proches de celles avec les adultes. Et en fait, les outils de la sociologie classique et les variables classiques de la sociologie dont on a déjà parlé, l'origine sociale, le genre, l'origine migratoire, eh ben, sont des variables qui structurent des différences dans ce monde-là de l'enfance. Et en gros, en même temps, par ailleurs, quand on dit ça, à la fois, ça peut paraître d'un seul coup casser une vision enchantée de l'enfance. En même temps, dès qu'on est parent ou instituteur ou qu'on va voir, on va avoir 3 minutes dans une cour de récréation, ben on s'aperçoit qu'en fait, les conflits entre enfants, ils sont très violents, très présents, très récurrents et que donc, cette vision conflictuelle de l'enfance, elle est très facile à aller percevoir.
Si je peux dire un mot là-dessus, c'est que Julie a parlé finalement de nos collègues, même si on ne fait pas la même chose que de sociologues de l'enfance contre lesquels on se construit, qui ont quand même socialement, je pense, moins d'importance que les savoirs qu'on peut dire dominants dans le domaine de l'enfance, à savoir les savoirs de type psy. Et là-dessus, en fait, alors à part la psychanalyse d'une certaine manière, mais elle pose d'autres problèmes, mais cette vision non conflictuelle du point de vue psy, elle est extrêmement forte. Moi, je mène actuellement une enquête dans une crèche, mais au fond, c'est pour être appliqué aussi. Donc là, c'est des enfants très jeunes, mais c'est aussi vrai pour les enfants un peu plus âgés. Il y a vraiment un déni constant, en fait, de la question de la violence. Et je prends une anecdote pour être tout à fait parlant. J'ai trouvé dans une crèche dans laquelle je travaillais il y a deux ans un petit prospectus sur la morsure. Et en fait, il y avait tout un truc en fait, sur, pour nous dire à quel point, en fait, quand un enfant mort, au fond, alors, pourquoi un enfant mort, voilà, et pour, est-ce que c'est grave, docteur, quoi, bon. C'est le cas de dire docteur parce qu'il y a ce côté gypsy, mais on pourrait dire aussi médical. Bon. Et en fait, ce qui est vraiment, vraiment frappant, c'est cette manière de dire bah, il mord. Alors surtout, il n'y a pas l'idée que ça peut être une agressivité. Il n'y a pas l'idée que ça peut être une manière de vouloir faire du mal, alors, voilà, ou alors même de vouloir prendre quelque chose et du coup d'utiliser la violence comme un outil particulier. En fait, alors, il ne s'agit pas, nous, de notre point de vue, de dire que les enfants sont systématiquement méchants et de trancher ou de situer dans un espèce d'ancien débat sur l'homme est-il un loup pour l'homme versus, en gros, l'homme est-il un grand coopérateur universel. Mais sans avoir à choisir entre ces deux-là, voilà, donc ce cas de la morsure, donc voilà, je vous le fais un petit peu dans le détail, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, donc, on trouvait plein de raisons pour dire, bah, en fait, il veut faire des bisous. Bon, alors, l'enfant qui est mort, en fait, il essaye de faire des bisous, et en fait, il rate, et donc il mord. Alors, ça peut sembler, on se dit, quand, c'est un délire psy. Mais moi, je me souviens, quand j'étais parent, j'avais eu, alors c'était bien avant l'enquête, une réunion de crèche dans laquelle on nous avait dit « Attention, faites pas trop de bisous à vos enfants, parce que des fois, quand ils cherchent à faire des bisous, ils mordent. » Donc, c'est un autre terrain, un autre endroit, ça n'a rien à voir. Donc, il y a une espèce de consistance comme ça dans un discours de dire « Voilà, alors, sur le cas de la morsure, mais c'est pas que la morsure. » C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de dire que... Bon. Et alors, en fait, concrètement, quand on observe dans un lieu comme la crèche, c'est vrai pour l'école, en fait, on se rend compte, ce que disait Julie sur la cour de récréation, la constance, en fait, de la violence des enfants, parce que c'est des humains comme les autres, en fait, ils sont gentils parfois, et puis méchants parfois. Méchants, voilà, voilà. Et qu'en fait, ce travail-là, en fait, et cette constance-là, mais du coup aussi la constance du travail pour prévenir, pour contraindre, pour contenir, comme disent les psys d'ailleurs, cette violence, et qui est constamment déniée. Alors, à la fois par les professionnels, bon, par les enfants eux-mêmes, évidemment, qui ne vont pas dire qu'ils ont fait des conneries, par les professionnels qui vous disent « ne vous inquiétez pas », c'est parce qu'ils sont nourris de cette idéologie psychologique, mais aussi par les parents qui, quelque part, aussi ne veulent pas voir et du coup se disent tout le temps, au final, on se retrouve dans une situation où les parents eux-mêmes se disent « donc c'est vrai à la crèche, c'est vrai à l'école », au fond, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'à l'école, c'est très différent d'en famille. Parce qu'en fait, il a l'air de se passer si bien, ou à la crèche, alors qu'en fait, nous, quand même, il est dur à la maison, etc. Et donc, c'est vrai que, alors, c'est pas, là, je vous ai parlé d'une enquête qui est postérieure à ce livre-là, mais d'une certaine manière, ce livre, s'il pouvait contribuer à une espèce d'opération justice et vérité sur l'enfance, c'est-à-dire, en gros, pour dire, bon, écoutez, c'est pas grave, mais les enfants sont aussi durs, méchants, il y a de la violence dans l'enfance. En tout cas, pour ce qui est de ce livre, ils perçoivent, en fait, des rapports de force, ils en sont des fois des producteurs, ou des coproducteurs, ou des reproducteurs. Et ben en fait, ça serait quand même un des résultats en fait qu'on aimerait, enfin, social, hein, dans la réception publique de notre travail, qu'on aimerait bien réaliser.
Et je me demandais comme c'est a priori effectivement un domaine d'étude qui est assez mal connu, peut-être des acteurs pédagogiques divers. C'est difficile d'obtenir des accords pour aller faire ces terrains-là, ou justement parce que c'est en friche, vous êtes plutôt accueillis les bras ouverts parce qu'il y a plein de choses à apprendre.
Des fois, on entend que c'est extrêmement difficile d'entrer dans les écoles. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais très concrètement, on est passé par le DAZEN, le chef du département au niveau de l'inspection de l'éducation nationale, pour avoir son accord, et puis de l'éducation nationale. Et après, finalement, sur cette question, alors oui, évidemment...
Ils sont curieux peut-être d'apprendre des choses, du coup, si c'est en friche.
Alors, effectivement, on n'a pas dit qu'on travaillait sur les enfants et la politique, parce qu'il y a aussi quand même quelque chose qui est... il y a l'idée que la neutralité scolaire, etc. Donc, par contre, ce qui va marcher très bien, c'est les enfants et la citoyenneté. Parce que là, évidemment, on rebondit sur ce côté-là, voilà, côté les filou. Élections des délégués de classe, la parole de l'enfant, la citoyenneté, etc. Donc... au départ, on l'avait présenté un peu comme ça, les enfants et la citoyenneté de manière un peu large. On a fait pareil pour l'enquête avec Lisa Mandel, qui a donné lieu à présidentielle, pour avoir les accords d'en haut. Après, plus important, mais en même temps, il fallait avoir ces accords en haut. Après, on a choisi deux écoles. Il a fallu présenter le projet aux équipes enseignantes et avoir l'accord des directrices. C'était des directrices, en l'occurrence. Et ensuite, qu'on a eu assez facilement. Après, l'enjeu, c'est de pas trop déranger le travail des enseignants et du coup de partir sur le volontariat. Et donc, effectivement, la plupart des enseignants ont été d'accord pour qu'on on entre dans leur classe. Parce que là, on a parlé, c'est vrai que je n'ai pas dit tout à l'heure, on a aussi fait passer un questionnaire à l'ensemble des classes des deux écoles, à l'exception des CP, parce qu'ils ne savaient pas encore forcément écrire.
Là, c'est un peu difficile de leur faire...
Voilà, mais du CE1 au CM2, donc là, il y avait un peu plus de 350 enfants dans les deux écoles. On a fait passer des questionnaires dans toutes les classes. Il y a eu une seule institutrice dans les deux écoles qui a refusé qu'on fasse passer le questionnaire dans la classe. Donc, en fait, une fois... Et puis après, c'est ça qui est... Une fois qu'on a ces accords-là, très vite, on fait partie du paysage. Et
surtout si c'est récurrent et qu'effectivement,
ouais,
on est...
Voilà, très vite, on passe presque inaperçu.
Ouais, j'ajoute une chose juste, c'est que c'est un peu en lien avec ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, il y a aussi sur le fond une espèce d'affinité entre la démarche sociologique consistant à dire « mais que pensent les enfants d'eux ?» en l'occurrence, nous, du monde social, et une certaine idéologie de l'enfance qui s'est beaucoup affirmée ces dernières années, notamment dans l'école élémentaire, à savoir l'idée de l'enfant au centre. C'est-à-dire l'enfant acteur, en fait, c'est quelque chose de très, très général, mais qui a carrément été inscrit dans la loi de 1989 sur l'avenir de l'école. Sur l'avenir de l'école. Enfin, en tout cas, dans la loi de 89, en fait, dans lequel on dit vraiment qu'il faut... Bon. Et ça, cette affinité-là, en fait, ça permet de présenter les choses. Alors, bien sûr, on va dire citoyenneté, etc., mais en plus de ça, c'est bien insister sur le fait qu'on veut recueillir le point de vue de l'enfant. Comme c'est effectivement ce qu'on faisait, c'était une chance pour ce type d'enquête. Et pour le dire aussi de manière tout à fait claire, c'est ce qu'on dit à nos étudiants qui travaillent sur l'enfance, hein, pour aller dans les écoles. Bon. Et je vais quand même ajouter un deuxième point, c'est que, très rapidement, c'est que ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile maintenant, mais dans les dernières années, notamment en fait, pour des raisons, pour aller vite, de plan Vigipirate, écarlate, d'accès. Du coup, je dis ça comme si c'était un espèce de détail historique, mais c'est peut-être possible aussi que, de manière générale, cette question de Vigipirate limite beaucoup les enquêtes dans les institutions publiques. Ce qui est un effet qui n'est pas forcément perçu par le grand public, mais ce n'est pas du tout neutre, parce qu'effectivement, il faut des badges, etc. Mais puis, au-delà des badges, quand on va avoir des autorisations auprès du grand chef, il peut vous dire, comme on dit souvent dans ces cas-là, pour des raisons de sécurité, etc., non, ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'on a des étudiants qui ont pour le coup des grosses difficultés à rentrer dans les écoles. Après, c'est peut-être juste lié pour certains d'entre eux à des situations locales, mais peut-être pas que.
Alors, une thèse importante de votre travail donc, sur comment les enfants perçoivent le monde social, c'est celle du recyclage symbolique. Alors, avant d'aller plus dans les détails, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce que c'est ?
Oui, donc le fameux recyclage symbolique.
On s'en souvient plus, alors par contre.
Alors, pour essayer de le dire de manière simple, puis après on détaillera en donnant des exemples, c'est l'idée que quand on interroge les enfants pour avoir leur perception sur des choses qui sont un peu lointaines pour eux, les métiers, comment ils vont les hiérarchiser, comment ils vont valoriser ou dévaloriser des métiers ou la politique, on s'est rendu compte, c'est effectivement l'apport, je crois, de cette enquête, qu'ils utilisaient des critères qui sont ceux qu'on leur assène à eux quotidiennement dans leur socialisation familiale et scolaire, mais pas au même dessein. C'est-à-dire que, par exemple, les parents dans la sphère familiale, sur les jeunes enfants, très concrètement, il y a l'idée de l'hygiène des corps et du maintien des corps. Touche pas à ça, c'est sale. Fais pas ça. Sors tes doigts de ton nez, c'est sale. Touche pas à ça, il y a des microbes. Fais pas ça, c'est dangereux. Et eux le recyclent, le transposent, on pourrait dire autrement, mais transposition était un terme bourdieusien qui était déjà utilisé, qui n'était pas exactement concordant, le recyclent pour nous dire, par exemple, conducteur de train, c'est pas bien parce que le caca, il tombe sur les rails. Et donc là, on se disait d'un seul coup, ah oui, au départ, ces paroles enfantines étaient un peu étonnantes. On s'est dit, c'est des paroles enfantines, c'est parce que c'est des enfants. Sauf qu'à force, la récurrence de ça, et puis pour le recyclage scolaire, on y reviendra après, mais en gros, c'est très concrètement de dire « je l'aime pas, lui, parce qu'il a une mauvaise moyenne, ou parce qu'il a des mauvaises notes, ou parce qu'il fait crier la maîtresse, ou je l'aime pas parce qu'il écrit gros ». Au début, on se disait « ils n'ont pas compris la question », on leur pose des questions sur leurs amitiés, leurs inimitiés. Et en fait, là, ils recyclent des schèmes, des critères scolaires qu'ils vont appliquer à la question de leurs amitiés.
Et oui, ce soir, on parle de l'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social. Et c'est un bouquin publié aux éditions du Seuil. Et on a les deux auteurs en plateau, Wilfried Ligné et Julie Pagis.
Dispose imposé à marcher en bande et à connaître la fouille. La bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposé à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Disposé à être tutoyé par toute institution. Institution méprise et déplore ton élocution. Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge? Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abribus, seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais t'oublies un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Tu sais que les riches sont pas plus libres que toi, eux aussi sont aliénés par leurs mots, leurs codes, leurs choix. Sauf que leur argot est bien vu, il est même courtisé. On dit du tien qu'il est bad, du leur qu'il est souligné. Leur style et leur mode sont juste plus prisés. En plus tu grandis et l'argot du préau n'est plus le consensus. De poids, de mesure, en fonction de ta voix, ton allure, ton aisance du langage dans la guerre du langage. Ce monde peut cerner d'où tu viens et j'en ai pas dit plus. Humain, tu restes emprisonné par tes habitus. Le quartier a ses règles, ses lois, son langage, son argot. Tu sais de quoi je parle, surtout quand t'es ado. Rempli de vivacité, tu sors du bahut, du chahut, contaminé par les expressions tordues de la rue. T'as vu, tu ramènes à l'école une manière de parler. Tu te la racontes, la manière de manier la langue et de tailler. Tes parents se sont dit, l'école change les nantis. Mais leur enfant grandit, veut parler comme un bandit. C'est une règle sociale, on s'adapte à notre monde. L'accent, le verbe, la phrase te reflète, te ressemble. T'as un arrière-goût du quartier, tu restes son ombre, c'est chaud. Les mots qui te servent à parler reflètent l'écho des autres. T'as pas encore conscience que le langage est ton passeport. Plus tard faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort. Ton horizon d'enfant construit ta personnalité. Tes manières, ton argot te façonne comme personne n'a idée. Ça jouera sur le mariage, sur le choix du job. Sur ton décor, sur le nom des gosses, sur le choix de l'école. De la musique que t'écoutes, de celle que tu comprends pas. Des malheureux que tu écoutes et de ceux que tu n'entends pas. Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours, l'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'écoule, tu auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille. D'autres sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante qui s'habille de l'accent des capitales scintillantes. En vrai, ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés, mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais j'oublie un détail, genre d'accent avec lequel je finis mes phrases. Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus. Humain, je reste emprisonné par mes habitus.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et c'était Rosset qui chantait Habitus, parce que ce soir,
on reçoit Wilfried Ligné et Julie Pagis qui viennent de sortir, enfin qui ont sorti un bouquin, pardon, L'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social, qui est paru aux éditions du Seuil, dans lequel effectivement on s'est, enfin, ils se sont intéressés à la façon dont l'habitus, enfin dont l'habitus habite les plus jeunes enfants dès le plus jeune âge et à quel point ça structure assez tôt finalement. On a parlé tout à l'heure on a évoqué un peu votre thème principal du recyclage symbolique. Peut-être pour l'illustrer, effectivement, dans le premier chapitre, vous intéressez et vous les avez questionnés sur comment ils vivent au quotidien, c'est ça, hein, comment ça se passe de la sortie de l'école jusqu'au lendemain, pour pouvoir savoir comment ils rentrent à l'école, qu'est-ce qu'ils ont chez eux, qu'est-ce qu'ils font chez eux, etc. Si, pour illustrer, et en gardant ça en tête pour nos auditeurs et auditrices, ce concept de recyclage, qu'est-ce qui ressort de ça, de la façon dont ils vous raconte ça?
Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que le premier chapitre, il a une fonction particulière par rapport à ce modèle. C'est-à-dire que c'est pas le moment où on... Il y a 4 chapitres dans le livre. C'est pas le moment... Le premier chapitre n'est pas consacré directement à la question du recyclage. De manière générale, de toute façon, en fait, cette question du recyclage est le fil principal, la dominante, au fond, de notre argumentation. Mais on n'a pas voulu faire un livre non plus ultra systématique qui serait une démonstration du type 1, donc 2, donc 3, etc. Donc c'est une lecture, c'est la lecture la plus théorique, d'une certaine manière, du livre. Donc c'est pour ça que c'est facile aussi pour en parler de manière générale, ben, on peut utiliser ce thème-là. Mais pour le coup, le premier chapitre, il est consacré à une chose toute simple, en fait, à poser un peu le décor, quoi. Après, on commence à parler de cette question du recyclage, mais le décor, c'est la question de la différenciation sociale des enfants. Alors, c'est assez simple comme travail à faire. C'est fortement basé sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur la manière qu'ont eu les enfants en tant qu'ethnographes de poche, on pourrait dire, de nous décrire en fait chacun leur famille. Mais c'est simplement de dire, bah, au fond, puisque le problème qu'on se posait, nous, c'était quand même au départ la question, avant d'aborder la réponse, c'est comment les enfants perçoivent le monde social, il fallait se demander d'abord depuis quel endroit perçoivent-ils, et depuis cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils sont amenés éventuellement à percevoir, parce qu'on peut imaginer qu'ils ne voient pas tout, voilà. Et que ça varie en fait, en fonction des familles. Alors, il n'est pas certain qu'on tienne cette question de la variation tout au long de l'ouvrage, parce que justement, par la suite, on a plutôt cherché en fait, des processus relativement généraux, et c'est là qu'on arrive sur la question du recyclage. Mais néanmoins, cette première étape nous semblait tout à fait cruciale, précisément, et ça, du coup, ça nous oblige à resituer le livre dans ce que c'est que les savoirs sur l'enfance en général, parce que c'est ce qui n'est jamais fait, en fait, dans les sciences qu'on appelle, nous, dominantes de l'enfance. C'est-à-dire, le modèle des sciences dominantes de l'enfance, c'est, au fond, il y a des manières normales d'être enfant. Alors, on peut être différent de cette norme ou de cette moyenne, mais la variation autour de cette norme, cette moyenne, elle va être relativement secondaire ou elle va être liée à des conditions tout à fait, on peut dire presque accidentelles, ce que les psychologues appellent parfois l'environnement. Donc, l'environnement a donné lieu à ce que, finalement, l'enfant parle un peu plus tard. Il y a beaucoup de choses aussi en termes de rythme, d'apprentissage, par exemple. À tel âge, il y a des stades, voilà. Alors, là, je caricature un petit peu, mais en gros, c'est ça l'idée. Contre ça, nous, on voulait poser dès le départ un paysage dans lequel, eh bien, effectivement, les enfants naissent à des endroits qui sont socialement différents, c'est-à-dire dans lesquels ils sont pris dans des relations sociales différentes. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont ce à quoi on pense le plus immédiatement, évidemment, c'est les inégalités économiques, les inégalités, voilà, la taille du logement, mais les conditions de vie familiale, est-ce qu'on est enfant de divorcés ou de parents qui sont ensemble, ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui sont de l'ordre aussi de à quel point ils sont portés par des styles culturels, des esthétiques particulières. Enfin, je ne sais pas, mais par exemple, là, on vient d'écouter un morceau de rap. Bon, voilà, effectivement, vous voyez très bien que on peut parler d'inégalités culturelles, dire on est dans des familles qui disent plus ou moins. Puis on peut aussi se poser une question un peu plus subtile de style. C'est-à-dire, c'est quoi grandir dans une famille dans laquelle on écoute du rap, avec tout ce que ça implique de rapport au langage, de rapport à la musique, etc. Et dans une famille où on écoute un autre type de musique ou pas de musique. Bon. Et là, ça sera peut-être un peu plus compliqué que dire des inégalités, mais on parlera de ce qu'on appelle des styles sociaux, c'est-à-dire des manières d'être qui sont différentes qualitativement, pas forcément ordonnables les unes par rapport aux autres, mais qui, pour ce qui nous intéresse, nous, sont importantes à prendre en compte directement pour dire ces choses-là, ces différences-là, elles ne sont pas extérieures à la manière dont les enfants grandissent. Et entre autres, pour ce qui est de notre objet, elles ne sont pas extérieures à la manière dont ils seront amenés à percevoir le monde social. Elles les forment, elles les informent, qu'on dit nous. C'est-à-dire, elles les construisent concrètement. Et donc, effectivement, c'est un point de départ important parce que c'est le point de départ qu'on ne prend jamais. Les enfants de la psy, de la pédiatrie, des sciences cognitives, ce sont des enfants génériques. En fait, en réalité, comme ils ne le sont pas réellement, ces enfants, parce qu'ils sont pris quelque part, c'est en gros les enfants des classes moyennes blanches, voire des classes supérieures. Souvent, d'ailleurs, dans beaucoup de contrôles psy, c'est les enfants des psys eux-mêmes, ou les enfants de leurs copains. Bon. Et donc, on crée une norme à partir d'un groupe qui est situé socialement.
Sur ce point, d'ailleurs, même Piaget, qui a été très important dans le développement de la psychologie de l'enfant, la psychologie du développement, a travaillé aussi, il y a cette récurrence dans tous les psychologues qui ont travaillé sur l'enfance, d'avoir fait des observations sur leurs propres enfants, un ou deux enfants, et puis d'en tirer des conclusions. Ou alors, moi qui travaille par ailleurs dans une cohorte qui suit 20 000 enfants avec des psys, et c'est vrai que des fois, on est très étonnés, ils veulent des stats, ils veulent des coefficients pour être sûr que l'échantillon, je ne sais pas, va être validé ou que le test va être validé. Et par contre, quand on leur ils les disent, bah, il faut 30 enfants. Et quand on leur dit, bah oui, mais alors on va les recruter comment? Ils disent, bah, autour de vous. Et donc, il va falloir des normes comme ça pour pouvoir faire des stats, etc. Sauf que par rapport à ça, finalement, la question de ce qu'eux appellent effectivement l'environnement, comme tu l'as dit, est complètement secondaire. Or, nous, contre ça, toujours dans ce chapitre 1, et pour prolonger ce que disait Wilfried, là où finalement l'âge, la variable de l'âge est quasiment la seule qui est prise en compte dans ces sciences dominantes de l'enfance, avec ces stades par lesquels on est tous censés passer, on a montré... notamment dans le rapport au langage, que des enfants de 7 ans, en CP, vont avoir des ressources langagières du fait qu'ils ont dans la famille une place accordée de partenaire d'interaction langagière. On va parler à l'enfant, on va lui demander son avis, on va lui apprendre très tôt, dès qu'il apprend à parler, à avoir un avis, donner son point de vue. Tout ça, en fait, aussi, quand on est sociologue, ou enfin, quand on est sociologue, j'espère qu'on en a conscience, mais les autres pas forcément, se disent qu'avoir un point de vue, ça va de soi. Ben non, en fait, avoir un point de vue, demander à un enfant ce qu'il pense de quelque chose et qu'il l'argumente, bah, c'est socialement situé. Il y a des familles où ça va de soi tous les jours, où le langage est utilisé. On a beaucoup insisté sur la question du rapport au langage, où le langage est utilisé comme une fin pédagogique, où toute situation, on va apprendre aux enfants à manier le langage, à argumenter leur point de vue. Et d'autres où c'est pas du tout le cas, et où en fait même ne serait-ce que avoir un point de vue. Et du coup, on s'est retrouvé des fois confronté à des enfants qui, face à nos questionnements, parce qu'effectivement, un entretien sociologique, c'est quand même des questions, on leur pose des questions, on leur demande des points de vue très généraux, et des fois, on a pu être étonnés. Bah, c'est juste que la situation en elle-même leur paraissait tellement extraordinaire, puisque c'était pas une situation qui était présente dans le quotidien familial, que du coup, c'était juste même, en fait, la situation qui pouvait être compliquée. Et du coup, par rapport à ça, pour revenir à mon histoire de stade, on a montré très concrètement que l'âge, évidemment, joue. Hein, on a pris en compte l'âge et on n'est pas en train de dire que en CM2, globalement, c'est la même chose qu'en CP. Mais les variations peuvent être plus importantes en fonction de l'origine sociale ou du genre qu'en fonction de l'âge. Et ça, c'était aussi un enjeu, je pense, très fort de cette enquête et lié notamment au maniement du langage. On a des enfants de CE1, de 7 ans, qui étaient capables d'argumenter sur la politique ou sur les métiers. D'une manière bien plus argumentée, par exemple, que des enfants de CM2. Et donc, c'est là où on voit très bien que, pour le coup, l'âge, finalement, est une variable totalement secondaire par rapport à l'origine sociale, par rapport à nos questions.
Une courte incise, juste pour dire, parce que pour préciser quand même un lien avec cette question du recyclage qui, malgré tout, est présente dès le départ dans ce chapitre, qui est donc plutôt un chapitre liminaire de cadrage, en fait, qu'un chapitre dans lequel commencerait réellement l'argumentation, c'est effectivement cette attention au langage, puisqu'en fait, la notion de recyclage telle qu'on la développe après, c'est vraiment cette idée de dire qu'au fond, pour la perception du monde social, qui est au fond une question, on pourrait dire, cognitive, c'est-à-dire une question une perception, on ne voit pas pourquoi en soi ça serait lié à la question du langage. Alors nous, effectivement, pour saisir cette perception, on fait s'exprimer les enfants, mais au fond, la question, c'est est-ce que ce qu'ils nous disent, c'est la manière qu'ils perçoivent, voilà. Alors ça, c'est la question telle qu'on la pose assez classiquement. Mais nous, notre manière de voir les choses, qui est inspirée d'autres auteurs que je vais passer ici, mais notamment du côté de ce qu'on appelle la psychologie culturelle, c'est le fait de dire que c'est effectivement deux choses différentes, la question du langage pour parler, la manière dont on voit le monde social et la manière dont on le voit pratiquement, en se passant de mots d'une certaine manière. Mais c'est précisément parce que ce sont deux choses différentes que l'un peut servir à l'autre. C'est-à-dire, c'est parce que le langage n'est pas exactement pareil que la perception, qu'en réalité, le langage peut être ce que les psychologues culturels appellent un instrument de la perception. C'est-à-dire, au fond, pour le dire assez rapidement, c'est un passage un peu théorique, mais du coup, je m'efforce de répondre, d'essayer de faire un lien entre ce chapitre 1 et cette histoire de recyclage. C'est l'idée de dire, au fond, les mots, c'est quand même bien utile pour penser, quoi. C'est-à-dire, en fait, finalement, quand on a sous la main, en fait, des mots, des expressions, etc., ben, en fait, finalement, ça ne fonctionne, voilà, comme un outil pour penser, quoi. Un peu...
Un instrument de pensée.
Un instrument de pensée. Ça fonctionne à l'oral, ça fonctionne à l'écrit aussi, hein, mais c'est cette idée de dire... la pensée, elle n'arrive pas dans un univers vide, et non, le territoire est balisé par des mots. Et une fois qu'on a dit ça, on peut enclencher cette réflexion sur la question du recyclage, c'est-à-dire... Enfin, cette réflexion, plus exactement, le type de questionnement qui aboutit à la réponse du type recyclage, à savoir, mais au fond, si les mots sont si importants dans la production de la pensée, une fois qu'on a montré qu'ils se présentent peut-être un peu différemment suivant les différents groupes sociaux, la question plus générale, c'est se dire, mais comment ils peuvent intervenir dans la perception des enfants? Comment ils se présentent aux enfants? Pourquoi quels sont les mots que les enfants utilisent, puisque c'est un instrument, pour penser, en l'occurrence, on dit plutôt percevoir le monde social. Et c'est là, pour redire un peu ce qu'on pourra développer après, qu'on a déjà dit un petit peu, qu'effectivement, la question de à quoi ils sont exposés au quotidien, eh bien, principalement à des logiques d'inculcation, de socialisation, de la propreté, de l'hygiène, d'être bon en classe, d'un certain nombre de choses comme ça, de se comporter aussi, on pourra en parler, en fait, en vraie fille ou en vrai garçon dans la cour d'école, eh bien, en fait, vont intervenir comme étant ce qui est disponible, pas forcément fait immédiatement pour percevoir le monde social, mais quand même bien utile, et simplement, bah, c'est juste les mots qui sont là, donc on va les prendre, on va les utiliser pour parler de la politique, des amis, des métiers, etc.
Oui, pour résumer, on a vraiment essayé de quelque part de tracer, de de saisir, de remonter à l'origine des mots et des expressions, des critères, des schèmes de vision du monde qu'ils utilisaient pour justement voir d'où ils venaient. Et c'est comme ça qu'on a construit le modèle de recyclage symbolique.
Et j'imagine que le fait que tous ces enfants soient scolarisés au même endroit, ça joue aussi en matière de représentation, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une base commune, une certaine unification des différences liées à la oui. scolarisation.
Oui, alors bien sûr, et on commence aussi par le dire, qu'il faut contextualiser l'enquête, qui ne prétend en rien être représentative. Ça aussi, c'est très important. On sait bien, le plus flagrant, c'est en termes politiques, par exemple, et comme on le dit bien, on était dans un terrain très largement de gauche, avec, je crois, plus de 75% pour Hollande au second tour. Ouais. Et par contre, bien plus mixte socialement, puisque dans une des deux écoles, c'était 50% d'enfants issus des classes populaires et 50% d'enfants issus de... On avait regroupé classe moyenne et classe supérieure. Dans l'autre, qui était un recrutement, qui était une école un peu publique, mais un peu alternative, et qui du coup avait un recrutement un peu plus
d'ailleurs, c'est assez intéressant.
Culturel des classes moyennes et supérieures, on va dire. Donc dans l'autre école, il y avait un peu moins de 50% d'enfants
de classe populaire.
Et plus de garçons. Mais donc, du coup, à la fois, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, ces enfants, par exemple, n'ont pas grandi à la campagne. Donc, il y a un contexte. Après, néanmoins, et c'était tout l'enjeu quand même d'aller enquêter dans des écoles où il y avait quand même des variations sociales et aussi en termes d'origine migratoire, c'est de pouvoir montrer que même dans ce contexte-là, une fois qu'on l'a bien situé, on montre des variations très importantes liées à l'origine sociale, liées au genre, liées à l'origine migratoire.
Et oui, ce soir, aux oreilles loin du front, on parle de l'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social. Et on a en plateau Wilfried Ligné et Julie Pagis. C'était la petite chorale de l'école près du studio où les Clash répétaient Sandinista qui chantait Career Opportunities. Et je pense que ces petits chanteurs ont maintenant l'âge de nos invités, qui sont donc Wilfried Ligné et Julie Pagis, qui viennent de publier L'enfance de l'ordre, comment les enfants en perçoivent le monde social, et c'est publié au Seuil. Alors justement, là, on va parler métier, parce que la conception des métiers est très différente des enfants que celle des adultes. On peut voir que tous les enfants, enfin pas tous les enfants, mais nombre d'enfants veulent être pompiers, maîtresses, policiers. Et que ben, les rêves des adultes, c'est pas forcément d'être pompiers, maîtresses ou policiers. En tout cas, il y a beaucoup de différences. Et vous avez fait une petite étude justement là-dessus. Alors peut-être avant de parler des résultats de l'étude, et un peu nous expliquer comment vous avez fonctionné.
Oui, en gros, on est rentré sur le terrain avec cette idée-là. On voulait travailler sur les perceptions enfantines de l'ordre social, des classes sociales. Et on sait qu'en France notamment, cette construction, les classes sociales sont définies notamment par rapport à la question de du statut professionnel. Et donc, on est venu reproduire finalement une étude qui avait déjà été faite par Bernard Zarka, un autre sociologue dans les années 90, qui avait voulu approcher ce qu'il a appelé le sens social des enfants en leur faisant faire un jeu de classement avec des étiquettes. On a repris cette idée-là. On avait, nous, construit des petites étiquettes. Ils avaient 9 étiquettes. On leur a distribué à tous les enfants 9 étiquettes de métiers. Nous,
comment vous aviez-vous choisi les métiers, d'ailleurs ?
Justement, on en avait pris. Nous, on savait que là-dedans, il y en avait 3 qui appartenaient aux classes supérieures selon les catégories de l'INSEE, hein, donc selon le classement officiel. Patron d'usine, architecte... professeurs, 3 qui appartenaient aux classes moyennes et 3 qui appartenaient aux classes populaires. Et donc, on leur a donné les 9 étiquettes et une page blanche. Et la consigne était floue. On s'était fait exprès. On avait repris la consigne floue, d'ailleurs, de Bernard Zarka, qui était place le métier qui te semble aller tout en haut jusqu'à celui qui te semble aller tout en bas. On faisait exprès de pas préciser selon quels critères, puisque l'objectif, c'était de comprendre comment les enfants, quels critères ils allaient utiliser pour hiérarchiser les métiers. Donc, voilà un peu le protocole. On leur a fait classer. Donc, il y avait un moment comme ça, silencieux, entre guillemets, où ils devaient classer. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait leur faire. Et après, on discutait collectivement de leur classement. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait leur faire coller les étiquettes parce que sinon, dès que la discussion commençait, il suffisait qu'il y ait quelqu'un, un enfant, une grande gueule de la classe ou quelqu'un qu'on respecte, etc., qui disait du mal, par exemple, du patron d'usine. Je donne un exemple concret qu'on a vu pour que l'autre, qui avait un père patron, subrepticement descende l'étiquette un peu plus bas parce qu'il sentait que c'était pas très bien. Donc, en gros, sur cette question, on leur a fait coller pour pouvoir après discuter des classements et de comment ils avaient classé, leur manière de classer, et est-ce qu'il y avait des manières différentes de classer selon qu'on ait une fille, un garçon, qu'on est d'origine populaire ou supérieure ou pas.
Et donc, oui, alors du coup, en fait, ça c'était, du coup, là c'était rendre propre prise assez littérale de cette enquête précédente. Mais là où on s'est assez vite déplacé, c'est qu'au fond, comme vient de le dire Julie, on est allé assez vite vers la question des manières de classer plutôt que des résultats du classement. Et y compris la question, enfin, les résultats du classement, sachant qu'en fait, les résultats du classement concernaient non pas les enfants en général, mais justement les enfants suivant les classes sociales, le genre, bon. Nous, les manières de classer, justement, c'est là que ça nous a amené beaucoup plus en fait, autour de la question de la manipulation des critères. Et ça, en fait, on le voyait dès le départ. C'est-à-dire ce que vient de dire Julie sur une difficulté d'enquête, à savoir « Ah, mais mince, ils décollent les étiquettes, donc il faut leur dire de les coller parce que, justement, ils changent tout. » Parce que, en fait, dès qu'il y en a une grande gueule, dit Julie, en fait, qui intervient, ça a des effets. Ben, au fond, c'est ça qui nous intéressait. C'est-à-dire que plus ça a été, puis on s'est dit « Bon, ben, on va maintenir quand même les résultats sur... On classe comment en fonction des propriétés sociales des enfants. Mais ce qui va être le plus important pour nous, ça va plutôt être de comprendre comment se jouent en fait, ces rapports de légitimité entre eux. Et notamment, ne serait-ce que la base, c'est-à-dire de mettre ça au jour, c'est-à-dire de dire qu'au fond, quand ils classent, ils ne classent pas tout seuls. Ils ne classent pas tout seuls parce que, alors je vais dire des choses très concrètes pour l'instant, c'est parce que, par exemple, quand leurs copains sont à côté, ils font attention à ce que font les autres. Et même s'il n'y avait personne à côté, ils agissent en fonction de ce que ça pourrait signifier pour quelqu'un d'autre. Par exemple, typiquement par rapport à leurs parents. Alors, c'est très simple, mais nous, on a mis un peu de temps avant vraiment de prendre au sérieux cette idée-là. C'est vrai que ce n'est pas pareil de classer sa mère, en fait, femme de ménage en bas ou en haut, suivant qu'on a des proches qui sont femmes de ménage ou suivant qu'on a une femme de ménage à la maison pour son ménage, bon, sachant qu'évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes familles, que ces cas se sont concrètement présentés en fait, dans notre travail. Donc voilà le type de logique. Et puis donc ça, c'est sur les relations qui peuvent relativement être abstraites, en tout cas qui ne sont pas immédiates dans le contexte. La mère n'est pas là, ou la femme de ménage qu'on a à la maison, elle n'est pas présente en fait, pendant l'acte de classement. Par contre, il y a une autre relation qui est effective et qui joue aussi, c'est justement la présence des autres enfants sur le modèle qu'a indiqué Julie tout à l'heure, c'est-à-dire ben, y en a un qui commence à utiliser un certain vocabulaire, certaines expressions, certains types de justifications pour dire que c'est bien ou c'est mal d'être ceci ou cela. Donc c'est là qu'on va retrouver, par exemple, c'est pas bien conducteur de train, c'était pas une étiquette qu'on avait proposée, mais parce qu'on fait caca sur les rails, par exemple, voilà, et que cette manière d'argumenter, elle va avoir une légitimité, alors soit en propre, soit elle va rejoindre une légitimité qui est quand même préexistante et qui va la servir, en fait, et que les enfants pressentent plus ou moins fortement, et elle va peser sur les classements. Donc, au fond, pour résumer ce que je viens de dire, il y a des choses qui sont très présentes dès le départ, qui sont de l'ordre du social et du collectif. C'est la question du fait que quand on classe, on se classe, on classe les siens, et la question du fait que dans cette question de classement, de manière générale, il y a des enjeux de légitimité, des choses qui s'imposent à soi. Et en fait, on pourrait assez vite résumer tout ça en parlant de reconnaissance. De reconnaissance des métiers et derrière ça de reconnaissance de l'ordre social. Et le terme de reconnaissance est intéressant parce qu'il est double en fait. Reconnaître, ça veut dire avoir compris que. C'est un peu connaître. J'ai reconnu la situation, j'ai compris comment ça se. Mais en même temps, c'est tout de suite une question symbolique, morale en fait, de reconnaître, c'est j'accepte la situation. Et en fait, cette situation entre connaître, décrire correctement et reconnaître, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont, c'est pas séparable. Et c'est justement pour ça qu'on s'est assez plus franchement éloigné de l'étude de départ dont on parlait tout à l'heure, qui parlait de sens social des enfants, parce que selon nous, même si c'est une étude très intéressante, elle a tendance à un peu confondre ces deux notions, enfin en tout cas, à ne pas les distinguer très clairement et du coup à les confondre en pratique, c'est-à-dire à faire comme si l'enjeu, pour les enfants, du point de vue des enfants, c'était juste une question de connaissance sans plus.
Par exemple, pour illustrer très concrètement ça, on a pris en compte des choses que peut-être Bernard Zarka aurait écartées comme des biais ou des biais d'enquête. Et d'ailleurs, je me permets de dire que on a eu un article dans le Nouvel Obs qui nous a dit qui disait qu'on prenait en compte des réponses des enfants qui n'avaient aucun sens. Et typiquement, par exemple, il y a des enfants qui vont mettre tout en haut, qui vont rajouter des métiers, qui vont mettre tout en haut. FBI, agent secret, et donc effectivement on pourrait se dire bon bah d'un seul coup ils partent dans des classements irréalistes. Zarka a utilisé beaucoup le terme irréaliste, sauf que bon, soit on fait ça, on se dit c'est des enfants, soit on se dit mais en même temps, et il se trouve que c'était des enfants, des garçons des classes populaires qui faisaient ça ou qui mettaient footballeur tout en haut. Et en gros, soit on se dit, bah oui, mais ils ont peut-être intérêt à produire des classements alternatifs, qu'on pourrait dire utopiques ou qu'on pourrait dire, j'en sais rien, qui n'est pas de sens pour les journalistes du Nouvel Obs. sauf que, en l'occurrence, ici, concrètement, bah, c'est des classements alternatifs qui leur permettent de ne pas être classés tout en bas. Et donc, voilà, il y a un intérêt socialement situé au classement. Il y a l'intérêt de classe, il y a l'intérêt de genre. Par exemple, il y avait le métier de fleuriste.
Qui est toujours très en haut.
Alors, le métier de fleuriste était apprécié par tous les enfants, mais avec une différence significative entre les garçons et les filles. Les filles qui classaient plus haut fleuriste que les garçons. Et là, ça permet aussi peut-être de raccrocher les wagons avec le concept de recyclage symbolique. Alors, pourquoi les filles, finalement, classent plus haut fleuriste que les garçons? Et donc, ça veut dire pourquoi valorise-t-elle davantage des critères esthétiques? Il nous semble que ce n'est pas sans lien avec le fait que tous les matins, on dit à nos enfants qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, mais qu'on le dit plus aux filles qu'aux garçons.
Surtout si elles portent des robes.
Voilà. Et qu'on le dit plus aux filles qu'aux garçons.
À fleurs.
Voilà. Et qu'on n'arrête pas, dès qu'une fille est en robe, tout le monde leur dit « Ah, t'es belle, ah, t'es belle, ah, t'es belle ». Et donc, voilà, dire à une fille, à sa fille ou à une fille, qu'elle est belle, c'est aussi dire qu'il faut qu'elle soit belle. Et donc, du coup, ça fait intérioriser des goûts et des dégoûts que eux, après, recyclent. Et donc, forcément, s'il y a eu une pratique qui était différenciée selon le genre, on la retrouve dans, après, le fait de recycler ou non certains critères. Mmh. Et là, le beau ou moche, qui est très utilisé par les enfants en politique aussi, pour les métiers, ça donnait des différenciations de genre.
J'insiste un petit peu sur le point que vient de souligner Julie, parce qu'elle utilise un terme qu'on utilise beaucoup, nous sociologues, c'est intériorisé, et puis des gens disent beaucoup ça facilement aussi, intériorisé. Je pense qu'un des apports de notre livre, c'est justement peut-être d'essayer de détailler un petit peu, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ce que vient de dire Julie. Qu'est-ce qui se passe? Donc les parents disent ah bah, t'es belle ou c'est bien, elle est jolie ta robe, etc. Et en fait, notre idée, c'est que ce sont ces mots qui sont prononcés là, qui vont être. Les mots, des expressions, des logiques, des schèmes, on dit aussi, nous, des types d'opposition, ne serait-ce que justement entre le beau et le moche, qui vont être utilisés par les enfants. C'est parce qu'ils sont là qu'ils sont réutilisés. Parce que si on dit juste... c'est important parce qu'en fait, c'est peut-être là la spécificité de cette idée de recyclage et pourquoi on estime que c'est peut-être un apport. C'est que nous, on voudrait préciser un peu ce mécanisme d'intériorisation. Et ce mécanisme d'intériorisation, il fonctionne comme ça. Imaginons que ces mots sont des objets, en fait, qu'on dit des instruments tout à l'heure. Ils sont par terre, ils sont là, ils sont présents. Et puis, on pose une question qui sort un peu nulle part à un gamin, du type, bah alors qu'est-ce que tu penses de Eva Jolie ? C'est un très bon exemple, justement. J'anticipe un petit peu sur le chapitre politique, mais... Bah Eva Jolie, est-ce qu'on va la juger en fonction... comment on va la juger ? Comment on va estimer ? Bon. Alors en fait, souvent, en fait, en vrai, les mots font pas tout. On sait déjà à peu près ce qu'on en pense. Parce qu'on en pense... Alors soit on n'en pense rien, ce qui est un cas relativement fréquent. Mais si on en pense quelque chose, c'est lié à ce qu'en pensent les parents, à ce qu'en pense la famille, mais c'est vague. Là, on nous demande, alors t'en penses quoi ? Il faut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ? Tâche difficile. Qu'est-ce qu'on a sous la main ? Eh bien là, c'est là que ça va jouer. Si on a une fille à qui on dit plus souvent en fait, ces expressions-là, elles seront plus présentes, comme on pourrait dire plus proches d'elle. Donc effectivement, au moment de les utiliser pour classer, donc là j'ai parlé d'Eva Jolie, mais pour classer fleuriste, pour donner ses bonnes raisons d'eux, et éventuellement, et c'est l'hypothèse qu'on fait, on essaie d'aller au plus loin de cette hypothèse, mais pour penser même quand on n'utilise pas les mots en fait, explicitement face à nous, eh bien effectivement c'est ça qui va produire des effets de remontée fleuriste, en tout cas par rapport aux garçons. Donc j'insiste un petit peu sur cet aspect-là, c'est pour dire, nous on pense en fait que les mots, en fait, dans leur réalité pratique, très concrète, être là, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, voilà, qu'ils soient présents ou pas autour de vous, c'est ça qui va faire, en fait, sur le mode très fortement de l'habitus, hein, justement, que bah, ça va être plus fort que nous, en fait, de penser en termes esthétiques, c'est-à-dire en termes de beaux-moches. Parce qu'on peut ne pas penser en termes dans ces termes-là, ou on peut plus ou moins penser dans ces termes de moches, des beaux-moches.
Ouais, beaux-moches. Et pour rebondir là-dessus, en fait, les adultes vont continuer, nous, ce qu'on pense, vont continuer à avoir une vision du monde structurée par ces schèmes qui peuvent paraître enfantins. Sauf que, bon, bah, ils auront appris qu'il faut avoir une vision argumentée, citoyenne des choses. Sauf que ces choses-là, tellement inconscientes, restent là et elles ne vont plus être dites pareil. Mais il suffit de voir, j'aime bien toujours dire ça, mais les réactions des journalistes et de Marion Maréchal Le Pen sur la prestation de Philippe Poutou au débat. On lui a dit qu'il se
était crasseux.
Il était crasseux, donc sale propre.
Il n'avait pas de crâne.
Le schème domestique, mais tous les journalistes n'ont cessé de dire qu'il se tenait pas bien sur sa chaise, qu'il se retournait, qu'il parlait à ses voisins. Enfin, là, c'était dingue. C'était que des critères scolaires qui ressortaient pour signifier une aversion d'habitus et puis un mépris de classe. Ça sortait comme ça. Et donc, voilà, c'est des choses qui... On l'a peut-être pas beaucoup dit dans le livre, mais c'est des schèmes, comme on dit, effectivement, nous, des critères qui continuent à structurer notre vision du monde, sauf qu'on n'en a pas forcément conscience.
J'ajoute un petit point. Habitus, le terme, c'est justement c'est le côté un peu éducation populaire, ce que vous me demandiez, en fait, ce que vous avez dit habitus tout à l'heure, mais ça ressemble beaucoup à habitude. Et donc, du coup, c'était beaucoup utilisé, même par les sociologues, d'ailleurs, pour parler des pratiques non discursives, non réflexives. Donc, du coup, quand on travaille sur les perceptions, normalement, on parle de trucs qui sont conscients, donc on ne va pas commencer à parler des habitudes. L'habitude et l'habitus, du coup, est beaucoup utilisé pour parler du corps. Ces choses qu'on fait par corps, c'est-à-dire que c'est plus fort que soi de les faire, en fait. Or, c'est quand même un peu l'esprit de notre livre, c'est de dire... Quand on parle, quand on perçoit, quand on fait des choses très intellectuelles, en fait, on fait beaucoup de choses qui sont plus fortes que soi. Et on les fait. Elles sont plus fortes que nous parce que justement, elles sont liées au fait qu'il y a certains mots qu'on a spontanément, puis des mots qu'on a moins spontanément. Là, quand on parle à ce micro, c'est un moment très réflexif. On est en train de réfléchir à ce qu'on dit, etc. Mais parce que justement, on est contraints, tous autant qu'on est, par nos moyens habituels, nos habitudes de pensée. Et là, on a de l'habitus, là. Des régularités, eh bien, il y a des choses, c'est plus fort que nous. Vous voyez, c'est comme quand on quitte une conversation, qu'on dit, c'est dingue, j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire, j'avais réfléchi avant, quand j'y étais, je me disais, voilà, moi, je sais que par exemple, beaucoup, c'était juste ne pas parler. Bon, puis j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher de le faire. Bon, voilà, bah, là, c'est pareil. Là, sur les enfants, c'est ça, c'est le fait de dire, ils peuvent, on peut pas, on essaie de. On est à un moment où on dit, attention, on va te parler de politique, on dit à un enfant ça, on va te parler des métiers. Donc, tu vois, c'est le moment, le top du top de ce que nous, on appelle la réflexivité. Voilà, le côté, tu vas vraiment prendre la distance maximale par rapport au côté spontané, quoi. Eh bien, dans ces moments-là, en fait, l'habitus joue quand même.
Plus fort que ça.
Parce qu'effectivement, on a cette tendance à faire des choses qui sont plus fortes que soi. Et après coup, on se dit, esprit d'escalier, mais c'est dingue, j'ai pas pu m'empêcher de... Peut-être pas les enfants, mais...
Et sur les métiers, est-ce qu'entre le CP et le CM2, il y a des évolutions dans les façons de percevoir ces métiers ?
Oui, notamment, on parle dans les schèmes qui sont recyclés. Il y a beaucoup chez les petits des schèmes liés à l'hygiène. sale, propre, ça revient très souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les CP, ils vont l'utiliser et se tromper, entre guillemets. Des fois, par exemple, ils vont dire se tromper, déclasser un métier qui se trouve être haut dans la hiérarchie. Par exemple,
le
dire
patron d'usine.
Alors, patron d'usine, ça pue, ça schmoute, ou archéologue.
C'est sale, il y a de la poussière.
C'est sale, je mets la main dans la poussière, ou médecin. C'est dégoûtant parce que tu touches le sang. Et donc, en fait, ce schéma-là qui est utilisé est étonnamment, entre guillemets, en CM1, il continue à utiliser quand même ce schéma du sale propre, mais il se trompe plus. C'est-à-dire que là où il y avait une association entre médecin et infirmier, parce que tous deux touchaient le sang et puis pouvaient voir les organes, donc tout ça, c'est bas, c'est dégoûtant. Hein, c'est vraiment le dégoût qui devient un opérateur de déclassement. Eh ben, en CM1, ils continuent à utiliser ce schéma, mais en ne se trompant plus. Ce qu'il y a aussi beaucoup chez les CP et qu'il y a moins chez les CM, c'est une logique d'association, alors qu'il y a une logique plus hiérarchique en CM, mais qui est aussi liée là pour le coup à des compétences qu'il faut avoir d'abstraction pour pouvoir en fait hiérarchiser. Ça veut dire réussir à faire une liste et suivre et quelque part noter quelque part les différents métiers selon un même critère. Or, il y a une logique d'association qui existe aussi chez les adultes, hein, mais qui est plus liée d'ailleurs à l'oral, la logique qu'on a appelée du marabout de ficelle, en reprenant d'ailleurs les travaux d'autres personnes. Les petits vont beaucoup faire ça. Ils vont associer, par exemple, ouvriers et architectes, parce que quelque part, ils construisent des maisons. Là, chez les CM, ben, ouvrier, il est vraiment dans les derniers du classement et architecte, il est dans les premiers. Mmh. Donc, il y a aussi ouais, cette pensée par association et par anecdote. Les petits vont énormément... Pour pouvoir donner un point de vue sur un métier, il va falloir qu'ils s'y impliquent à la première personne. Et ils vont nous donner une petite anecdote comme ça qui peut paraître... anecdotique, c'est le cas de le dire, mais qui peut paraître un peu dérisoire, et parce que en termes de ressources pour argumenter, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes, effectivement, là, en prenant globalement, qu'auront les CM.
Manière de dire, c'est quelque chose qu'on développe pas mal dans la conclusion du livre, qu'encore une fois, les mots ne font pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, la logique, c'est de dire, parce que notre livre s'appelle L'enfance de l'ordre, c'est qu'effectivement, la place des mots et du recyclage dont on parle, ça donne davantage de consistance, ça fait se cristalliser l'ordre social. Mais vous voyez, en ce cas-là, pourquoi les CM2 se mettent à se tromper moins et à mettre bien architecte et patron en haut, même si le patron d'usine s'achemoute et... Bah parce qu'il n'y a pas que les justifications, les mots qu'ils peuvent utiliser. Il y a une expérience plus générale du monde social, etc., qui dépasse largement le cadre de notre enquête. Mais du coup, en fait, voilà, c'était juste pour dire ça, c'est qu'effectivement, en gros, ce qui veut dire que nous, on dirait pas qu'on n'est pas complètement constructiviste, comme disent les sociologues, c'est-à-dire on ne pense pas que les enfants reconstruisent tout seuls, en fait, à la base de leurs mots, ou même qu'ils reconstruiraient avec un langage très, très lié à des forces sociales, mais que du coup, après, une fois qu'ils l'ont entre les mains, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Non, en fait, ils peuvent, d'une certaine manière, faire de moins en moins ce qu'ils veulent. Et on peut rigoler un petit peu, quoi, en CP, en CE1, en imaginant que, quelque part, archéologue, c'est pas terrible, parce que, quand même, c'est dans la terre. Mais en grandissant, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, justement, c'est beaucoup moins, on peut beaucoup moins refaire les choses localement, on est beaucoup moins isolé dans le petit contexte de la cour de récréation, ou de la famille, etc. On est dans un monde qui devient de plus en plus sérieux, dans lequel on a plein de signes qui suggèrent, en fait, en dehors de l'espace local de production d'un classement, que en fait, certainement qu'archéologue, c'est quand même un peu plus classe que, par exemple, ouvrier.
Personne qui s'occupe du ménage. Parce que celle-là, elle a été beaucoup dépréciée par la question du « tu touches la poussière, c'est sale, tu touches le caca, il y a des couches, etc. » Donc là,
l'aspirateur fait du bruit.
Il y a un métier qui marche toujours bien, c'est prof, parce qu'on peut donner des punitions aux élèves. Et donc ce soir, on reçoit Wilfried Ligné et Julie Pagis à l'occasion de la sortie de leur bouquin « L'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social » et c'est publié aux éditions du Seuil.
Qui c'est qui est très gentil,
très gentil.
Qui c'est qui est très méchant,
très méchant.
Qui a tous les premiers prix,
très gentil.
Qui roupille au dernier rang,
très méchant.
Qui fait des économies,
très gentil.
Et qui gaspille son argent,
très méchant.
C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole.
qui t'as de l'antipathie.
Déjanté.
Pour qui t'as un gros penchant.
Les méchants.
C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Samedi,
déjanté.
Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur content, les méchants. Les gentils méchants.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et c'était Michel Fugain qui chantait les gentils. Et les méchants, puisque ce soir on parle de l'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social, et dans les cours de récré, ben, y a les méchants, il y a les chefs de bande, il y a les groupes de copains, et en fait c'est pas juste une question d'amitié, cette façon de regrouper, ou en tout cas c'est plus complexe que ça, la façon de regrouper les bandes dans les cours d'école.
Oui, malgré l'idée qu'on aurait pu penser que la cour de récréation serait un lieu un peu relativement autonome et que l'amitié serait fondée sur des critères non liés à l'origine sociale ou aux critères scolaires, et ben non, ça aussi c'est un des résultats de l'enquête. En gros, on a demandé à tous les enfants dans le questionnaire quels étaient leurs trois amis dans l'école. On a fait des analyses de réseau et on leur a demandé en entretien qui ils n'aimaient pas. Et donc, le premier facteur de séparation des groupes, c'est le sexe. Hein, donc, les groupes sont largement non mixtes. Hein. L'origine sociale, ensuite. Donc, dès le CE1, parce que donc, le questionnaire était passé en la deuxième année, donc en CE1, dès le CE1, les groupes d'amis sont largement homogames, comme on dit en sociologie. Mais donc, en gros, les enfants sont amis avec des enfants des milieux sociaux proches.
Qui se ressemblent, ça semble, quoi.
Voilà, qui se ressemblent, ça semble. Ça marche déjà très tôt. Et l'origine migratoire peut également jouer, même si on ne s'est pas trop avancé sur cette question-là, parce que sur notre terrain, c'était assez... l'origine migratoire était assez corrélée à l'origine sociale populaire. Du coup, c'était difficile de savoir s'il y avait un effet propre.
Et à ceux qui avaient peut-être des bonnes notes et des mauvaises notes aussi, j'imagine que ça joue aussi dans les façons de...
Alors, j'ai dit les critères objectifs de séparation des enfants. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on les interroge, ils ne vont pas nous dire « lui, je ne l'aime pas parce que c'est un pauvre ». Ils vont pas, ou lui je l'aime pas parce que c'est une fille. Enfin, même si là-dessus c'est peut-être un peu plus facile à dire. Par contre, et quand on leur demande quels sont les critères, leurs critères subjectifs pour expliquer qui ils n'aiment pas, ben, reviennent nos fameux critères domestiques et scolaires, et donc surtout effectivement de manière massive scolaire. Pour les petits, c'était ben, j'aime pas David parce qu'il écrit gros. Et c'est vrai que là-dessus. On était un peu étonnés, on repose les questions avant de comprendre que finalement, oui, ces critères scolaires auxquels ils sont soumis quotidiennement par l'institutrice bah, deviennent des critères d'appréciation ou de dépréciation des uns et des autres. Et donc, massivement, mais le comportement en classe, les résultats scolaires, les notes deviennent des instruments, des armes, quelque part, pour détester ou apprécier ses camarades.
Donc encore une fois, on a cette même logique, c'est-à-dire que tu as des éléments, en fait, ce qu'on montre quand on fait nos réseaux sociaux objectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des raisons de jugement ou de perception des enfants qui font que des enfants de classe populaire ou des filles vont rester entre elles, les filles vont rester entre elles, les garçons entre eux, les classes populaires vont rester plutôt entre eux par rapport aux classes moyennes et supérieures. Il y a des raisons très générales, en fait, mais en l'occurrence, effectivement, quand tu passes à la manière de juger, qui n'est pas complètement indépendante, puisqu'elle va renforcer ou pas cet état des choses, eh bien, effectivement, tu vas avoir cette logique de, voilà, justement, de renforcement ou pas de l'ordre social, qui est liée à ces logiques de recyclage. Mais c'est vrai que, justement, sans entrer dans notre proposition particulière du recyclage, encore une fois, le simple résultat, plus indépendant de nos propositions théoriques de... Mais c'est dingue, en fait. Dès le plus jeune âge, en fait, vous avez ces logiques, en fait, de ségrégation, si on peut bien dire comme ça, par sexe et par classe sociale ou origine migratoire, sachant, comme l'a dit Julie, que c'est très lié sur notre terrain. c'est quand même assez étonnant parce qu'en fait, on se dit. Alors, on s'y rentre un peu plus dans le détail. Je dis ça parce que c'est un petit peu intéressant. On l'a pas trop développé dans le livre parce qu'on aurait voulu avoir plus de billes, mais à l'oral, je peux le dire un peu plus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a du coup, on se retrouve avec des graphiques. Donc, vous faites des graphiques avec des liens entre les uns et les autres. Et puis, vous avez les deux premiers groupes. Ça fait un peu comme une radio des poumons. Hein, ça fait un peu comme ça. Vous avez deux poumons séparés, sauf que les poumons, c'est un sexe. Voilà. Ouais, vous avez un sexe féminin. Et puis, parce qu'il y a quand même un lien entre ces deux poumons, entre guillemets. C'est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel lien, c'est souvent, donc c'est quelques enfants, et là vous avez des effets de classe, comme on peut, c'est-à-dire qu'en fait c'est les enfants des classes moyennes et supérieures qui souvent font le lien entre les filles et les garçons. Donc là vous avez vraiment ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire vraiment vous avez l'idée de dire à quelles conditions sociales, en fait, enfin, en gros, que vous voyez que comment la classe, au fond, rejoue, en fait, le sexe. Bon,
bah, mais même durant les interrogatoires, les entretiens.
C'est vrai que c'est un peu les interrogatoires.
Les entretiens, les garçons des classes supérieures se mettent, s'assiedent différemment des garçons des classes plus populaires, où en fait, même dans leur façon de s'habiller, leur façon d'être, c'est-à-dire croiser les jambes, avoir des cheveux plus longs, porter des couleurs plus vives, rose, violet, orange, je ne sais pas. Et on voit bien cette différence, et cette différence se retrouve aussi dans les liens d'amitié.
Oui, tout à fait. La différenciation de genre est socialement située, pour résumer ça. Et avec des effets, là aussi, là je pense aux parents, et avec toute leur bonne volonté, les parents qui veulent essayer d'éduquer leurs enfants en minorant les différences de genre, eh ben, ça peut être rejoué après, et ça peut devenir du mépris de classe quelque part. Là je pense très, très concrètement à des filles qui vont dire « Ah, elle, je l'aime pas parce qu'elle s'habille en rose ». Et donc, c'est un moyen, elle nous explique qu'elle ne les aime pas, et c'est un dégoût. « Ouais, je n'aime pas parce qu'elle s'habille en rose », sauf qu'effectivement, c'est des petites filles des classes... moyenne et supérieure, qui du coup parlent de filles de classe populaire. Et donc, on voit très bien dans cette question des amitiés, des groupes de pairs, comment la question des déviances de genre rejoue des questions de distance de classe.
Il y a d'ailleurs aussi une question de jouer le jeu du genre, ce que vous écrivez, je crois, exactement comme ça. Et il y a effectivement une petite fille qui est considérée comme un garçon manqué et qui a du coup un peu, qui est pas forcément plébiscitée. Ouais. Parce qu'elle est pas dans les trucs.
Ouais, c'est important de souligner cet aspect-là, parce que bon, le genre est vraiment important comme critère de classement objectif. Et en même temps, le genre nous a obligés à pister en fait une source autonome supplémentaire par rapport à ce qu'on a dit sur la sphère domestique et sur la sphère scolaire. Enfin, on dit pas sphère, nous on dit plutôt registre domestique, registre scolaire. C'est ce qu'on a appelé le registre des pairs, puisque ce qui est tout à fait frappant, c'est à quel point en fait les groupes de ce qu'on appelle les groupes de pairs, c'est-à-dire les groupes d'enfants entre eux dans leur autonomie relative. Alors autonomie relative, ça veut dire en fait quand vous rentrez dans le détail, ces groupes-là, par exemple le fait d'être l'entre-soi enfantin, en fait, il est dépendant de la bonne volonté des parents, de la bonne volonté de l'école. Donc objectivement, il est dépendant, mais même du point de vue symbolique, c'est-à-dire du point de vue de son autonomie en tant que langage propre, en fait. Dans les cours de récréation, on dit aussi des choses sur les notes, des choses sur la propreté, etc. Mais si vous cherchez ce qu'il y a de relativement spécifique, c'est-à-dire l'autonomie relative du point de vue symbolique, du point de vue du langage, du point de vue du registre qui est utilisé dans ce groupe de pairs, eh ben vous allez avoir notamment cette présence des questions de genre. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, en fait, au fond, un des critères très très forts pour être un bon camarade, et donc un des critères très très forts de jugement dans ces groupes d'enfants, c'est le fait d'être conforme à sa classe de sexe, voilà, à l'ordre du genre. Bon, alors donc jouer le jeu du genre, ça veut dire jouer comme un garçon quand on est un garçon, s'habiller comme un garçon quand on est un garçon. Alors évidemment, il y a des, vous voyez, c'est compliqué parce qu'effectivement, nous on a beaucoup insisté sur les processus généraux, donc on a plus de difficultés. Hein. C'est aussi une manière de dire que quand on fait un livre de sciences sociales, comme toute contribution scientifique, je pense, il y a aussi des limites. Voilà, nous, comme on va insister sur les processus généraux, on peut pas rentrer tant dans le détail de ce que vient de dire Julie, qui est pourtant important, à quel point la classe rejoue le genre, qui fait que par exemple une fille de classe supérieure peut déclasser une fille de classe moyenne sur la base du rôle, donc presque pour dire d'une manière d'être trop fille. Pour une fille, voilà. Et en même temps, quand elle dit ça, et là où ça devient compliqué, mais il faut bien le noter, elle dit quelque chose qui est spécifiquement esthétique et dont on montre par ailleurs que c'est typiquement une manière féminine en fait de déclasser, parce que les filles, on l'a dit tout à l'heure, sont plus soumises à ce schème beau-moche ou de présentation de soi. Donc c'est un peu compliqué, mais donc sans entrer dans ces détails-là, effectivement, on a cette manière en fait de revenir tout le temps. Donc on a la même logique. Dans la cour de récréation, on ne cesse d'entendre qu'en fait, faut faire la fille, si on est une fille, faut se comporter en tant que fille, etc. Donc quand on demande un certain nombre de classements notamment, y compris justement précisément des camarades, eh bien, on va avoir cette présence de je l'aime ou je l'aime pas, parce qu'en fait, il se comporte comme garçon, il se comporte comme un garçon. Alors, je dis un exemple concret, quand même, parce que c'est un peu théorique ce que je viens de dire. C'est concrètement, en fait, je l'aime pas parce que je l'aime pas elle parce qu'elle elle fait que des jeux de garçons. Alors, ça, c'est un truc qu'on a.
Ouais. Elle joue au toupie, elle joue au foot, elle joue pas avec nous.
Voilà.
Et là aussi, ils recyclent typiquement sur la sphère politique. Par exemple, ils vont
on
dire...
On voit ça tout à fait quand on parle de politique avec Marine Le Pen, ouais. qu'on n'aime pas parce que c'est un garçon manqué.
Voilà.
Ouais, on a des enfants qui vont nous dire « Moi, j'aime pas Marine Le Pen parce que quand même, à son âge, il serait temps qu'elle soit une vraie fille et qu'elle arrête d'essayer de crier comme un garçon. Elle essaie de recopier François Hollande, etc. » Ou un autre enfant, je me rappelle, qui parlait d'un président d'un autre pays, mais qui disait que c'était une fiotte. Parce que il s'était laissé couper par une femme, il s'était laissé interrompre, etc. Et donc là aussi, c'était pas un vrai mec avec la virilité qui doit aller avec. Et donc il le dépréciait sur une déviance de genre.
Parce qu'il faut dire, c'est que sur la vision de la politique, c'est comme si c'était un peu amplifié cette histoire du genre. Dans leur façon de percevoir. Ou alors, c'est une réalité aussi où nos hommes politiques sont des hommes vieux et blancs.
Oui, alors, c'est vrai que, bon, pour le coup, par rapport à la question de la politique...
Je crois que c'est le cas.
Il y a tellement peu
de moins en moins vieux
femmes que ce qu'on voit très concrètement quand on travaille sur la politique et les enfants, c'est le manque de modèles, l'absence, la quasi-absence de modèles féminins pour s'identifier quand on est... quand on est une fille. Donc là, peut-être, là, je sors de mon rôle de sociologue et de manière plus normative. En tout cas, on voit très clairement, là, dans l'enquête qu'on a fait cette année en Seine-Saint-Denis avec Lisa Mandel, c'était fou à quel point il y avait un certain nombre d'enfants qui savaient. En fait, les enfants savent d'abord qui on aime ou qui on n'aime pas avant de savoir pourquoi. Donc, ils savaient qu'ils n'aimaient pas Marine Le Pen. Et par contre, qui nous disaient, mais elle est jolie. Et donc, qui, au final, quand on leur demandait de dessiner un candidat, dessinaient Marine Le Pen.
Il y avait une obsession même de Marine Le Pen dans cette série de BD.
Oui, alors, dans les mots, que en négatif. Et en plus, et pour cause. C'est-à-dire que dans ses propositions cette année, il y avait de retirer la nationalité française aux enfants
directement.
De parents étrangers. Donc, ça touchait dans l'école où on a enquêté. Énormément d'enfants qui étaient terrorisés par rapport à cette question, qui nous disaient, mais Julie, Lisa, si elle passe, mon père repart au Maroc, ma mère, elle est née en France, tout ça, et moi, qu'est-ce que je fais? Mais par contre, c'était le hiatus entre eux. Par contre, il y avait des filles qui disaient, mais par contre, elle est tellement jolie, parce qu'elle est blonde, quoi. Et du coup, voilà, ce critère esthétique entrait en contradiction. Et comme dans l'enquête qu'on avait vue, c'est là aussi où on voit des fois l'autonomie enfantine. Il y avait des enfants qui pouvaient avoir des parents qui avaient voté Mélenchon, mais qui nous disait, mais Mélenchon, il coupe la parole aux journalistes, ou il parle trop fort. Donc là, les critères scolaires, directement, ou alors il a l'air toujours énervé.
Oui, donc là, on voit vraiment cet aspect-là. C'est-à-dire que là, c'est le cas de la politique, c'est comme c'est peut-être la chose la plus lointaine d'eux, c'est là où ça apparaît encore plus, cette logique de recyclage. Parce qu'effectivement, on voit très bien qu'il y a toujours pareil l'ordre social préexistant, c'est-à-dire on sait à peu près quel est son camp politique, etc. Puis en même temps, des fois, tu as des effets de contradiction, comme ce que vient de dire Julie, c'est-à-dire, alors mes parents votent Mélenchon, mais quand même, ils coupent la parole, et du coup, limite, j'ai pas intérêt à Marine Le Pen, je le sens presque, on pourrait dire, en fait, mes parents, Marine Le Pen, pas bien. Enfin, il y a le côté pratico-pratique de, visiblement, Marine Le Pen, c'est pas le candidat de notre famille, quoi. Bon, pour des raisons, on pourrait objectiver, mais que les enfants ressentent pas forcément sur le mode très explicite de, enfin, ils peuvent le dire parfois, mais de, c'est parce que sinon, elle nous virerait, moi et mes parents, de France, quoi. Et puis en même temps, quand même, elle est jolie, quoi. Ou quand même, à ce moment-là, elle a bien parlé, etc. Donc moi, je peux pas parler de la dernière présidentielle, puisque c'est pas moi qui ai fait l'enquête, c'est l'enquête de Julie et de Lisa Mandel. Mais c'est vrai que c'est peut-être là que ça paraît tout à fait frappant, en fait, cette espèce de logique.
Mais il y a un petit côté réac aussi chez les enfants que vous interviewez. Ou... Ouais.
Par rapport à ça, c'est vrai qu'on nous dit souvent ça. C'est vrai que si on leur demande la France idéale ou quand on leur a demandé quelle loi ils feraient s'ils étaient présidents, oui, la dimension, le volet répressif des lois,
ça punit,
peut paraître d'un seul coup, ils pourraient remettre la peine de mort, ils mettraient en prison les voleurs, voire ils les tueraient, ils interdiraient l'alcool et la cigarette, etc. Donc on se dit, bon, soit on se dit les enfants sont des fachos, il y a même des cognitivistes qui écrivent des articles dans Nature pour dire que c'est dans le cerveau. Il y avait un numéro comme ça que j'avais acheté sur les enfants, pourquoi les enfants sont de droite. Bon, nous, concrètement, nous, on dit, non, une fois de plus, on en revient avec notre histoire de recyclage et on se dit, les enfants, si on réfléchit deux secondes, ils sont soumis quotidiennement, que ce soit dans la sphère familiale ou la sphère scolaire, à finalement un monde
autoritaires, où ils doivent se conformer à l'ordre établi, à l'ordre familial ou l'ordre scolaire établi. Ils n'ont pas intérêt, ils le savent très bien, à le remettre en cause, parce que sinon les sanctions tombent tout de suite, quel que soit le type de sanctions, parce qu'elles sont différentes selon les familles. Et du coup, c'est presque l'inverse. On pourrait se demander comment pourrait-il, si jeune, avoir un rapport critique à l'ordre politique établi, alors que dans la sphère familiale et scolaire, il est hors de question de l'être. Donc là aussi, c'est quand même une forme de recyclage de ce à quoi ils sont soumis quotidiennement.
On n'a pas été normatif dans le livre, mais quand même, j'en profite pour prévenir une lecture qui peut être faite du livre, justement parce que quand on lit, on est lecteur, on ne peut pas s'empêcher de dire « Ah, bah, qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de ce qui est dit ?» Et quand même, là-dessus, notamment quand on a certains journalistes qui veulent vraiment nous amener là-dessus, ça ne veut pas dire non plus que nous, on a plaidé pour rien de particulier là-dessus, mais pour une éducation anti-autoritaire, parce qu'en fait, si on doit dire quelque chose, ça serait plutôt des choses de l'ordre de au fond, le problème de l'éducation, mais qui est intrinsèque à l'éducation, c'est qu'elle a un caractère impératif. C'est-à-dire que quand vous transmettez, il y a cette dimension d'impératif. Alors, on peut très bien dire, attention, essayez de transmettre sans manière autoritaire, mais si vous ne faites pas exister un peu de manière claire, voilà, alors ça s'appelle un impératif, en fait, et bien effectivement, vous n'êtes pas en train d'éduquer. Donc effectivement, en tout cas, nous, c'est plutôt notre position, je pense, là-dessus. C'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire « Ah, bah décidément, du coup, il faudrait arrêter de dire aux enfants... » Parce que c'est très concret. Par exemple, on a parlé d'hygiène ou de rapport au danger, par exemple. Quand vous dites à un enfant de ne pas s'éloigner, de faire attention, etc., vous le dites pour des raisons qui sont d'autant plus interactives que vous avez peur pour, par exemple, sa survie. Quoi. C'est très concret. Et en même temps, quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de vous dire « Je suis en train de lui donner des critères pour juger ses petits camarades. » Sauf que, bah, de fait, parce que quand on éduque, en fait, on ne fait jamais complètement uniquement ce qu'on veut faire, voire des fois, on ne fait même pas ce qu'on croit être en train de faire. Et bien, effectivement, vous êtes en train de faire aussi autre chose, c'est-à-dire, en gros, de produire un certain nombre de matériaux, en fait, qui vont pouvoir être utilisés à d'autres fins, c'est-à-dire notamment de se reparler dans le monde social. Donc, cette précision-là, il me semble qu'elle est un petit peu importante, parce que je crois, on est ici, donc c'est important de le dire, que notre vision des choses n'est pas particulièrement, ça pourrait l'être par ailleurs, mais un plaidoyer pour une vision... qui était d'ailleurs présent dans une des deux écoles, en fait, hein, qui a une culture un peu comme ça, on dit qu'elle est alternative, et son style était vraiment la promotion d'une éducation anti-autoritaire. Et une des manières de confirmer ce que je viens de dire, c'est qu'en réalité, dans cette école, il n'y avait pas moins, et je dirais même qu'il y avait tout autant, et peut-être d'une manière peut-être plus particulière et un peu sournoise, là, je le dis un peu de mon point de vue, des formes de recyclage, en fait.
Et ça va être terminé puisque l'émission se termine. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire votre bouquin. Donc c'est L'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social. Et c'est publié aux éditions du Seuil. En tout cas, merci beaucoup Wilfried et Julie d'être passés sur ce plateau.
Merci à vous.
J'espère vous recevoir pour une prochaine étude parce que j'imagine que vous continuez à travailler.